Bonjour à toutes et à tous, je suis Matteo Nazarenko et ici mes chroniques porteront essentiellement sur les musiques de films et la musique à l'image plus globalement. Je tenterai de vous expliquer au mieux les techniques de composition, les différents choix réalisés par des maîtres tels qu'Ennio Morricone, John Williams, Joe Hisaishi, pour pouvoir nous transmettre les émotions les plus précises possibles en lien avec les images qui défilent devant nos yeux. Alors parallèlement à ça, je suis un jeune slammeur, musicien, et vous pourrez entendre mes chansons dans cette émission.
Bientôt les petites filles rêveront de devenir comme elles. Cœur en or et âme sensible, bientôt la seule étoile qui brillera encore dans le ciel.
Je remercie à cette occasion David de donner cette opportunité de diffusion. Mon nom d'artiste, c'est Matteo Cello, vous trouverez tout dans les liens externes de l'émission, vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, ainsi que sur les différentes plateformes de streaming. Et l'écoute de mes chansons, un petit abonnement sur Instagram, ça fera toujours plaisir, et ça m'aiderait beaucoup, ça me permet de me développer en tant qu'artiste, de trouver un public de plus en plus large. Mais pour l'heure, je fais partie du très beau projet que représente cette émission, et en tant que grand passionné de musique à l'image, je vais essayer de vous transmettre ce que je peux ressentir, ce que je comprends de certaines compositions. Alors je pourrai jamais tout analyser, tant cet univers est infini, mais je vais vous plonger avec moi dans ce dernier, et on va commencer sans plus tarder. Alors pour ce premier épisode, je vais vous parler de l'utilisation des instruments à cordes dans les films d'horreur et les films à suspense. Étant moi-même violoncelliste, c'est un sujet auquel je me suis par conséquent beaucoup intéressé, et je vais donc l'aborder avec vous aujourd'hui. Fin juillet dernier, le Dracula de Luc Besson est sorti en salle, et en écoutant la bande originale, j'ai remarqué que Danny Elfman n'avait pas dérogé aux nouveaux usages du genre, en donnant aux cordes une présence assez importante. Alors pourquoi est-ce aujourd'hui la première section instrumentale à laquelle on pense quand on évoque ces catégories de films? Comment les grands compositeurs qui se sont attelés à ces longs métrages ont donné cette dimension de tension et d'angoisse aux violons, alto, violoncelle et autres? Alors déjà, il faut savoir que pour ce qui est des différentes techniques de jeu qu'on connaît, staccato, legato, tous les instruments sont plus ou moins en capacité de diversifier tout cela. Mais les instruments à cordes sont les plus propices à un spectre très élargi de techniques de jeu, simplement par le fait que l'on puisse en jouer aussi bien avec un archet qu'avec les doigts en pizzicato. Et ce qui fait qu'on peut donner au violon le thème très élégiaque de la liste de Schindler par exemple, et à l'opposé le thème plein de tension, de psychose. Et c'est l'univers de ce dernier qui va nous intéresser aujourd'hui. En faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'il y a justement un avant et un après Psychose. Je pars donc de ce film pour dérouler le fil rouge de cette chronique parce que la partition de Bernard Herrmann est vraiment pionnière d'un nouveau style de composition. Si on ressort la liste des films d'horreur pré-Psychose, on remarque que les cordes sont souvent présentes, mais jamais seules. La section des cuivres est toujours là pour donner une dimension presque triomphale aux différents longs métrages, une dimension qu'on pourrait presque qualifier de grandiloquente, et qui à mon sens dénature un peu l'essence même des films d'horreur. Alors Herrmann, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il décide d'utiliser seulement des cordes. Et dès la séquence d'ouverture du film, ça nous met dans l'ambiance recherchée par Alfred Hitchcock. Pendant 1h et 49 minutes, vous allez donc assister à une sorte de symphonie concertante pour Norman Bates, un type flippant atteint de dédoublement de la personnalité, et instrument à cordes. En regardant ce chef-d'œuvre, ça m'a vraiment frappé de voir à quel point le personnage de Bates devient lui aussi comme un instrument. Les notes que vous avez entendues précédemment, un accord renversé de quinte augmentée, fa dièse, ré, si bémol, ne peut mieux sonner dans un contexte horrifique que lorsqu'il est joué par un effectif de cordes. Cette façon incisive de prendre chaque note et d'en faire comme un coup de couteau, on va y revenir, si vous essayez avec des cuivres ou même avec un piano, certes c'est aussi un instrument à cordes, eh ben ça va pas sonner de la même manière. L'ambiance sonore signifiera autre chose, et Norman Bates est un personnage à cordes dans le sens où il peut tout aussi bien montrer un côté presque calme, à la limite du jovial lorsqu'il accueille Marion Crane dans son motel, et donc là on l'assimile à une partition plus legato. toujours avec un penchant inquiétant, je vous l'accorde, mais d'un autre côté, il a ce trouble de la personnalité, il se prend pour sa mère, et il se révèle être un tueur en série. Et si l'ensemble de la partition d'Herman est génial, l'extrait qui va suivre est à mon sens, et je ne suis pas le seul à le penser, le paroxysme de son travail. Ces notes staccato, vous les avez déjà certainement entendues. Elles surgissent lors de la célébrissime scène de la douche. Des attaques de violon au rythme des coups de couteau, à la manière du Mickey Mousing des Disney, cette technique de composition qui consiste à écrire une partition qui accompagne précisément chaque geste des personnages. Ici, les archets des violons sont la lame du couteau de Bates. Un accord des plus dissonants possibles avec des demi-tons qui se rajoutent sans cesse et grâce auxquels les cordes gagnent une place définitive dans les films d'horreur. Une illustration sonore dont tout le monde parle encore et encore et qui marque une nouvelle ère pour les bandes originales de films d'horreur. 15 ans plus tard, en 1975 donc, Steven Spielberg sort Les Dents de la Mer et les cordes viennent dominer les fonds marins. C'est bien évidemment son acolyte John Williams qui est en charge de la musique, et il lui suffira de deux notes pour ancrer les cordes dans le paysage de l'horreur. Un mi et un fa, un tempo qui s'accélère, ralentit en fonction de la proximité du requin. Deux simples notes, dans les graves, comme sorties des abysses, jouées en très léger forte piano pour accentuer la tension et nous dire que le requin peut attaquer à tout moment. Si John Williams, à l'inverse de Bernard Herrmann, utilise d'autres instruments que des cordes tout au long de la bande originale, ce sont bel et bien les deux notes de violoncelles et contrebasses qui restent dans nos esprits et qui nous captivent le plus. Ici, le timbre des instruments à cordes offre au mieux une atmosphère de suspense, sans trop peser non plus, pour rendre compte de la dualité entre légèreté et gravité qu'abrite la mer. En 1979, Ridley Scott présente Alien, un long métrage mêlant science-fiction et horreur, et Jerry Goldsmith est le compositeur. À nouveau un accord dissonant, des violons dans les aigus et on comprend que les deux heures du film ne vont pas nous faire rire. Cet accord nous crispe et Goldsmith va le réintégrer à plusieurs reprises dans des formes différentes, avec par exemple de longues séquences avec des glissando continus pour nous tenir en haleine. Et l'utilisation des cordes dans cette configuration peut être interprétée comme une liane qui nous encercle et nous resserre continuellement autour de nous, nous interdisant d'en sortir. Nous sommes plongés dans le film avec cette menace constante de potentielles créatures extraterrestres et donc d'un étau qui se resserre grâce à la tension sonore des cordes. Et je finirai cette chronique avec un film d'horreur marquant du 21e siècle, Insidious de James Wan, musique de Joseph Bichara. Les cordes sont à nouveau à l'honneur, comme un personnage à part entière, et la partition oscille entre semblant de calme et tension dissonante. Josh et sa famille vivent leur mésaventure tragique et les cordes ne semblent pas vouloir les rassurer, jouant un rôle stressant, comme elles ont pu le faire pour Marion Crane, Martin Brody, Ellen Ripley et tant d'autres personnages que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui mais qui ont vu les cordes les dominer. Vous l'aurez compris, les cordes font depuis 60 ans maintenant la loi dans les films d'horreur, proposant des techniques variées et des thèmes variés mais toujours plus angoissants les uns que les autres. C'est ainsi que s'achève ce premier parcours à travers les musiques de films. On se retrouve donc dans 2 semaines pour une prochaine chronique.